Ça enregistre bien. Merci pour votre accueil. Vous avez bien fait d'applaudir au début, parce qu'on ne sait pas si à la fin ce que ça vaudra, donc au moins c'est déjà ça le fait. Nous vivons, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que nous vivons une période absolument passionnante, notamment parce qu'elle est en ce moment un peu agitée. Notre société connaît quelques mouvements sociaux, pour le dire pudiquement, dont on peut penser ce que l'on veut, mais ils ont ceci de positif, en tout cas, c'est qu'ils sont l'occasion de réfléchir au sens de notre vie politique. Parce que c'est un peu ça ce qui est porté par toutes ces revendications actuelles. Quelle est notre vie politique ? Politique non pas au sens étroit du parti politique, à quel parti politique est-ce que nous voulons appartenir ou autre, ça c'est pas la question, mais politique au sens large, étymologique du terme, politique ça vient du grec polis, la vie de la cité. Comment concevoir notre vie en société ? C'est cela la vie politique, c'est le fait que nous vivons en société. Et de fait, à travers le mouvement des Gilets jaunes, nous percevons, et ça on ne peut pas le contester, l'impact qu'un groupe, qu'une communauté peut avoir sur la société. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous voyons ce groupe se constituer de quelque chose qui était très désorganisé au tout début. On voit petit à petit une communauté qui se structure, qui s'organise. Et c'est très intéressant de voir comment elle s'organise, sur quels principes, qu'est-ce qui fait qu'il y a là une communauté qui existe. Et à travers ce mouvement des Gilets jaunes, encore une fois, indépendamment de savoir si on est pour ou contre, c'est vraiment pas la question, nous voyons donc la formation d'une société. Ce qui nous permet de comprendre d'une manière plus générale, mais quel est le sens de la vie en communauté, quelles en sont les conditions et les modalités. Ce qui, en l'occurrence, rassemble tous ces contestataires, tous ceux qui protestent actuellement dans les rues, ce qui semble les rassembler, c'est que, et justement, ils poursuivent un but commun. Il y a une protestation commune qui semble les rassembler. C'est cela qui fait leur unité, qui en même temps pourrait bien aussi faire leur division, parce qu'il n'est pas sûr que quant aux revendications, aux protestations, ils soient tous d'accord sur ce qu'ils veulent. Est-ce que les choses sont clairement définies et font l'unité ? C'est autre chose. Et c'est ça ce qui est très intéressant, parce que ça nous permet de voir qu'ils sont réunis par un but commun, qui va être le bien commun dont je vais vous parler ce soir, et que c'est parce que si ce but existe, il va rassembler, et plus ce but va être clair, net, compris, plus il va donner une unité, une cohérence à la société, et plus ce but, en revanche, ou ce bien est flou, on ne poursuit pas vraiment les mêmes choses, plus ça va tirailler et on ne va pas être vraiment unifié. Alors, creusons un petit peu ce qu'est ce bien commun. Creusons-le parce qu'il est, pour le dire tout de suite, l'élément le plus essentiel à la constitution d'une société, d'une communauté humaine, quelle qu'elle soit. Alors, pour essayer de creuser ce qu'est le bien commun, nous allons procéder en quatre temps. Premièrement, alors j'aime bien les plans. Les grands 1, là je vous ai épargné, il n'y a pas trop de sous-niveaux, mais souvent j'aime bien les grand 1, grand A, petit 1 et petit A. Voilà, ça c'est un plan sérieux. Là ça va être plus succinct, mais quatre temps. Tout d'abord, disons un grand 1, la nature sociale de l'homme, puis on verra comment définir le bien commun, on verra la relation entre le bien commun, le bien de la communauté et le bien de chacun, bien particulier. Puis, j'essaierai de distinguer le bien commun de l'intérêt général. Alors, tout ça, c'est peut-être très flou pour l'instant. Ça va s'éclairer petit à petit, normalement. Enfin, j'espère pour vous. Grand 1, donc, la nature sociale de l'homme. Vraisemblablement, en terminale, vous avez donc subi des cours de philosophie, plus ou moins laborieusement. Si vous êtes aujourd'hui en études scientifiques, je ne me fais pas d'idée sur la qualité de l'intérêt pour vous des études de philosophie, mais ce n'est pas grave. On peut aussi faire des choses intéressantes en science, paraît-il. Mais en philosophie, vous avez donc dû étudier un certain nombre de philosophes, à commencer, parce que c'est des incontournables, à commencer par Rousseau, par exemple. Grâce avec lequel on nous bassine depuis donc deux siècles et sa grande idée qui est que l'homme est un animal solitaire et que la société le corrompt. Ça, c'est la grande idée de Rousseau. On est fait pour vivre tout seul dans notre coin. Problème, c'est pas de bol, on vit en société et que la société corrompt l'individu. C'est très sous-jacent encore dans beaucoup de discours politiques hein, qui justifient justement qu'il ne faut pas sanctionner le délinquant parce que si le délinquant est délinquant, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de la société qui l'a rendu délinquant. Donc surtout ne plus sanctionner les délinquants. Bon, ça ce qui est sous-jacent. Bon, pas de bol, pour nous, la position chrétienne, c'est exactement l'inverse, c'est de tenir au contraire que l'homme est naturellement fait pour vivre en société. Nous ne sommes pas des animaux solitaires. Et on peut donner quelques arguments, quelques justifications à cela. D'abord des arguments qui sont liés à la nature humaine plus philosophiquement possible. Déjà pour la vie physique, pour naître, il a fallu la société de mes parents qui me donne naissance et qui ensuite se sont occupés de moi pour me nourrir, me vêtir, me protéger. Je ne suis pas né tout seul, je ne me suis pas fait tout seul et je n'ai pas pu grandir tout seul. Et puis toujours pour être pleinement homme, il a fallu une société, toujours celle de mes parents, mais plus largement celle de mes éducateurs, qui m'ont éduqué. Qui m'ont appris à parler, qui m'ont appris à lire, à compter, et toute une série de choses qui me sont importantes et qui ont permis de développer toutes mes vertus intellectuelles ou morales. Le fait que je suis capable de faire des choses et je suis capable de le faire avec droiture. Quelques arguments naturels qui montrent que nous sommes faits pour vivre en société. Puis il y a des arguments plus théologiques. Donc, cela suppose d'avoir foi en Dieu pour y adhérer. Premièrement, c'est que nous avons été créés pour connaître et aimer Dieu. Si Dieu nous a créés, c'est pour que nous puissions le connaître et l'aimer. C'est pour que nous puissions créer une relation avec lui, ce qui est une forme de société. Nous sommes appelés à vivre en société avec Dieu, en communion avec Dieu. Et puis un dernier argument, toujours d'ordre théologique, nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Or Dieu, en quelque sorte, c'est une société. Une société de trois personnes. Si nous sommes à l'image de Dieu qui est une société, qui vit de relations, ben nous aussi, nous sommes faits pour vivre de relations. Je suis très succinct pour expliquer cette dimension sociale de l'homme, parce que ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir, et ce thème-là mériterait une heure à lui tout seul, mais il faut bien avancer. Je suis désolé si c'est un petit peu... J'annonce des conclusions sans vous donner toutes les justifications, mais il faut bien arriver à parler de tout. Dire ainsi que l'homme est fait pour vivre en société, qu'il est naturellement fait pour vivre en société, ça veut dire que nous recevons une partie de notre être de la société. Je ne suis pleinement homme, pleinement être humain. Quand je prends homme, c'est au sens générique. Hein. Je ne suis pleinement homme que lorsque je peux vivre en société. Et d'ailleurs, vous constaterez que c'est souvent un des drames pour ceux qui sont sur du chômage de très longue durée, c'est que le chômage les fait sortir de la vie sociale. Et donc, au-delà simplement de la fragilité, de la précarité matérielle, il y a surtout la détresse de la solitude qui déshumanise. L'homme est fait pour vivre en société, il reçoit une partie de son tout, une partie de son être de la vie sociale, et de ce point de vue-là, il dépend de la société. Je dépends de la communauté humaine. J'en dépends comme la partie dépend du tout, comme un peu ma main dépend de mon corps. Ma main toute seule, si on la coupe du corps, ben, elle ne peut plus rien. Mon corps pourra vivre sans elle, alors il lui manquera quelque chose, mais ma main, si on la coupe, si on coupe la partie du corps, la main disparaît. Elle périt. Et dans la mesure où la partie dépend du tout, cela signifie qu'elle a un devoir vis-à-vis du tout et donc que la partie peut être amenée à se sacrifier pour le tout. Je reprends l'exemple de la main, justement. Vous êtes en train de faire du vélo sur le bord du canal du Midi. Il se passe je ne sais trop quoi, mais vous faites un magnifique soleil, 18 sur 20 en note de style. Mais le réflexe premier, vous mettez les mains en avant, vous sacrifiez vos mains pour vous protéger tout entier. C'est mais inné. Ou alors, il se passe vraiment quelque chose. Hein. Si vous laissez tomber, alors sauf si vous avez très envie d'impressionner par votre chute dans le canal en espérant que la charmante jeune fille qui vous a vu tomber va venir vous chercher, faire du bouche à bouche et autres. Ok, mais ce n'est pas nécessairement le réflexe le plus spontané. Là, quand même. Ça vaut pour la main, ça vaut pour une société. C'est le principe même de l'engagement militaire. Le militaire est celui qui, en s'engageant, accepte le risque de mourir, de se sacrifier lui, pour sauver son pays. Et pas dans le registre militaire, mais pas loin, on en a eu un exemple il y a quelques jours avec deux pompiers donc, qui meurent, qui se sacrifient pour le bien de la communauté humaine à Paris. Sauf que si on tient simplement que la partie, l'homme, doit se sacrifier pour le tout, ça peut nous mettre dans une zone inconfortable. Parce qu'on peut en arriver au totalitarisme. C'est-à-dire qu'on va imposer à la partie de se sacrifier pour le tout. Et en fait, ici, quand on pense à la relation entre l'individu, chacun d'entre nous, et la communauté, il y a deux grandes déformations possibles. La première déformation possible, c'est justement le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est cette pensée qui consiste à dire que seule la communauté, seul le tout existe. La seule chose vraiment existante, c'est le tout, et les individus ne sont que des maillons, des rouages dans la communauté. Donc on peut en faire ce qu'on veut, c'est des petits soldats de plomb, des petits individus, on les sacrifie, on ne les sacrifie pas, on s'en fiche. Le tout, c'est que la société existe en tant que telle. Et l'autre position, exactement inverse, ça va être l'individualisme. La seule chose qui existe réellement, c'est l'individu, et la société, elle, n'a pas d'existence réelle. C'est un simple contrat. C'est justement Rousseau. Seul l'individu existe, la société n'existe pas vraiment, elle n'existe que parce qu'on a signé un contrat entre nous. Alors vous ne savez pas, parce que ça remonte à des arrière-arrière-arrière-grands-parents, je ne sais pas quand, mais d'après Rousseau, ça s'est fait à ce moment-là. Les premiers hommes se sont fait une sorte de contrat, un pacte, pour qui a constitué la société. Donc la société n'existe pas en tant que telle. Nous, il nous faut tenir ce juste milieu. La société existe réellement. Les membres qui composent cette société existent réellement, et donc tout cela doit être ordonné l'un par rapport à l'autre. Dans certaines situations, c'est l'individu qui se sacrifie, dans d'autres situations, c'est la société, au contraire, qui est au service de l'individu. C'est là un juste milieu extrêmement difficile à trouver. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ça va? Oui. Deuxième point, après avoir vu premier point la nature sociale de l'homme, donc nous sommes faits pour vivre en société et nous dépendons de la société, voyons maintenant la définition du bien commun. Et nous allons partir d'une définition générique. Si on veut définir le bien commun de la manière la plus générale qui soit, on peut dire, avec saint Thomas d'Aquin, celui que vous irez célébrer le 28 janvier aux Jacobins à 19h, c'est ça ? 18h30, donc ne soyez pas en retard, parce que c'est quand même le plus grand saint après saint Dominique, après la Sainte Vierge et saint Romaric également. On l'oublie souvent celui-là. Bien, d'après saint Thomas d'Aquin, le bien commun, c'est, je cite, « la fin de chacune des personnes vivant en communauté ». La fin de chacune des personnes vivant en communauté. C'est-à-dire que dès lors que nous formons une communauté, nous poursuivons ensemble une fin qui nous est commune. Et le bien commun, c'est ça. Et toute la question va être d'identifier quelle est cette fin commune aux membres de la communauté. Toute communauté, quelle qu'elle soit, le pays, la mairie, et ça peut être aussi l'entreprise, Airbus, ça peut être le club sportif, l'amicale de joueurs de boules de Julien Josas, il doit sûrement exister, mais aussi la famille, le couple. Un couple, c'est une micro-société, et qui se réunit justement autour d'un bien commun. Et donc ça, c'est une des questions essentielles à se poser quand on réfléchit, tiens, est-ce que j'épouse Gudule ou pas ? Mais quel est le bien commun que je poursuis avec elle ? C'est ça la question fondamentale. Un bien commun, donc c'est la fin de chacune des parties, personnes vivant en communauté. Plus précisément, qu'est-ce à dire ? Et là, on atteint un sommet de philosophie. Le bien commun, c'est un bien qui est commun. Merci. Et ouais, 15 ans d'études pour en arriver là. Un bien commun, un bien qui est commun, un bien. Qu'est-ce qu'un bien ? En tant que bien, le bien commun est donc la fin de la société. Parce que le bien, philosophiquement, on le définit comme étant ce que toute chose peut désirer. Ce que chacun d'entre nous peut désirer. Que ce que nous voulons, ultimement, quand nous voulons quelque chose, on poursuit toujours le bien. Alors on peut se tromper, ce bien peut être en fait mauvais, mais on veut toujours un bien. Le bien, c'est ce que nous voulons quand nous voulons quelque chose. Même quand je veux le mal, en fait je veux le bien. Je veux ce mal-là en tant qu'il me représente un certain bien. Je veux mentir, par exemple, je sais que c'est mal, mais je veux mentir parce que ce mensonge me permettra de me sortir d'une situation délicate, et c'est ça le bien. Que je veux. Le bien, c'est ce que je veux toutes les fois où je veux quelque chose. De sorte que le bien devient la finalité de mon action. Quand je pose une action, quoi que ce soit, depuis me lever le matin jusqu'à me coucher le soir en passant par tout l'intermédiaire tel que travailler, travailler et travailler, le régime de l'étudiant, eh bien, à chaque fois, je suis motivé par un bien qui est la finalité que je poursuis. Ce bien, donc, motive toute mon action et vient lui donner une qualification morale. Selon que le bien que je poursuis va être bon, réellement bon ou non, je veux secourir ce pauvre dans la rue ou je veux piquer le sac de la petite vieille dans la rue pour secourir le pauvre, hein, ce qui est possible aussi. Eh bien ça vient donner une connotation morale à l'action que je pose. Cette action va être bonne ou non, entre autres en fonction du bien que je poursuis. Ça, là aussi, c'est bon pour avoir une petite évaluation de ce que je fais. Est-ce que ce que je fais est bien ou pas? Ben déjà, mais quelle est mon intention? En essayant d'aller à chaque fois au plus loin. Ben, je veux donner de l'argent à ce pauvre. Bien. Ouais, mais en fait, je veux donner de l'argent à ce pauvre, comme le vicomte de Valmont dans Les Liaisons dangereuses, pour séduire la présidente de Tourvel, femme mariée. Pas bien. Ah, donc, quelle est mon intention ? Le bien, ce qui vient donner une finalité à mon action, et ce qui donne une connotation morale. Et ce bien est qualifié de commun. Commun en plusieurs sens. Commun, ça veut dire tout d'abord que c'est le bien propre à la communauté. Cette communauté existe, elle a un bien qui lui est propre. Si je prends la comparaison toujours du corps humain, qui est une bonne manière de comprendre les choses, le corps humain comme corps a un bien qui lui est propre, qui est la santé. C'est le bien propre du corps humain que d'être en bonne santé, d'être en vie. Pour un groupe de musiciens et de chanteurs, c'est l'harmonie du chant. C'est mieux quand tout est accordé. Ouais, alors, sauf si on fait dans la musique très contemporaine, mais normalement, c'est mieux quand c'est accordé. Plus largement, pour une société, en fait, au-delà de l'harmonie du chant, c'est l'ordre, l'unité, la paix de la communauté. Le bien par excellence d'une communauté, c'est qu'elle soit en paix, qu'elle soit unifiée, ordonnée, que chacun soit à sa place et servent le bien de la communauté, participent au bien de cette communauté-là. Le bien est commun au sens générique, au sens bien de toute la communauté. Il est commun aussi au sens où ça va être le bien propre de chacun des membres de la communauté. Pas simplement le bien de quelques-uns, mais de tous les membres de la communauté. Ainsi, par exemple, la santé pour le corps humain, ça signifie que c'est la santé de chaque membre du corps humain. Mon corps est en bonne santé parce que chaque membre du corps humain est en bonne santé. Donc il est commun parce que c'est le bien du tout, considéré comme tout, mais c'est possible parce que c'est le bien de chacun. Et ce qui montre ici qu'il n'y a pas d'opposition possible, normalement, entre le bien de chacun des membres et le bien de la communauté. Pour que le corps soit en bonne santé, il faut que les membres soient en bonne santé, et les membres sont en bonne santé parce que le corps est en bonne santé. Retenez bien cette idée, parce qu'on la reverra un peu plus loin. Normalement, il n'y a pas d'opposition entre le bien de chacun des membres et le bien de la communauté. Les choses vont se compliquer un petit peu, parce que là, nous parlons du bien commun, nous cherchons à définir le bien commun d'une manière générale, sauf que, en réalité, quand on parle de bien commun, il y a quatre définitions ou quatre notions possibles derrière bien commun. Quatre définitions qui sont liées les unes aux autres par une sorte de hiérarchie. Il y a une notion qui va réaliser en plénitude le bien commun, et puis ensuite certaines qui vont le réaliser de plus ou moins parfaitement. Le bien commun par excellence, le bien le plus bien de tous les biens, et le plus universel à tout individu, c'est quel est le bien, le meilleur, il n'y a pas mieux que lui.
Dieu.
Le bien commun par excellence, c'est Dieu. Sauf que là, c'est un bien qui nous est totalement inaccessible, c'est-à-dire qu'il est en dehors de notre sphère à nous, je n'ai pas de prix sur lui, je ne peux pas augmenter, je ne peux pas travailler au bien commun, ni quoi que ce soit. Quand on se quitte la sphère divine, et qu'on rentre dans l'univers qui est le nôtre, matériel, créé, le plus haut reflet de la perfection de Dieu, qu'est-ce qui, ici-bas, va être la plus belle représentation de la bonté de Dieu, et donc le bien le plus parfait, c'est justement l'ordre, l'unité de l'univers tout entier. Le fait que l'univers tout entier soit unifié, et que chacun y ait sa place. Vous voyez, la Vierge Marie, qui est la créature la plus parfaite et donc la plus belle de tout l'univers, reste moins belle que la Vierge Marie plus l'univers tout entier. Ce qui est logique. Il y a plus dans le tout que dans la partie. Un principe de base. Donc, ce qui, ici-bas, va représenter le plus haut degré du bien commun après Dieu, ça va être l'ordre, l'unité, la paix qui règne dans la communauté. Ce qui signifie à quel point préserver l'ordre, l'unité, la paix de la communauté, quelle que soit la communauté, encore une fois, la famille, la classe, l'école, l'entreprise, quoi que ce soit, le pays. L'ordre, l'unité, la paix, c'est ce qu'il y a de plus important. Troisième degré du bien commun, Dieu, l'ordre, l'unité, la paix. Troisième degré, qu'est-ce qui nous permet de vivre dans l'ordre, dans l'unité, la paix, c'est que nous menions la vie vertueuse, une vie selon les vertus. Ben oui, on arrive à vivre en paix ensemble parce qu'il y a en moi la charité, la douceur, l'humilité, la bienveillance, la générosité, toutes ces vertus qui nous permettent de vivre en société. Et puis, dernier degré du bien commun, le plus bas, celui qu'on trouve dans la définition qu'on trouve dans le Concile Vatican II, à savoir l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à leurs membres d'atteindre leur perfection, l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à leurs membres, pardon, d'atteindre leur perfection d'une manière plus globale et plus aisée. Donc c'est tout ce qui, ben, matériellement, nous permet justement de développer nos vertus. Le fait qu'il y a un système éducatif, qu'il y a une sécurité qui est assurée, etc. Si j'insiste, ou si j'ai présenté ces différents niveaux de bien commun, c'est parce que ça va avoir une importance considérable. Mais lorsqu'il s'agit de se sacrifier pour le bien commun, ce sacrifice n'a pas la même exigence si derrière bien commun je désigne Dieu ou si je désigne simplement un ensemble de conditions sociales. Oui. Dans un cas, le sacrifice est total, absolu et non négociable pour Dieu. Il est normal que je me sacrifie totalement. Les conditions sociales, là déjà, ça peut se discuter. Et donc, il faut faire très attention quand on lit un texte ou quand on parle de bien commun, de dire, mais de quel bien commun est-ce que je parle ? Il faut y faire d'autant plus attention que depuis que le Concile Vatican II a donné cette définition, la plupart du temps, quand on vous parle du bien commun, celui qui en parle un peu feignant a pris le Concile, a regardé la définition, a recopié en disant le bien commun, c'est les conditions sociales, en oubliant de vous parler des trois autres notions. Ce qui change tout, quand même. Et ça, vous pouvez essayer de le transposer. Réfléchissez. Aux communautés, quelles qu'elles soient, encore une fois, hein, depuis le club sportif jusqu'au pays, en passant par la famille, mais quels sont les différents niveaux de bien commun de cette communauté ? À quoi est-ce qu'on participe ? C'est toujours clair ? Ça va ? Bien, vous êtes vaillants. Grand 3, après avoir vu la nature sociale de l'homme et la définition du bien commun, voyons, ça va être un peu plus croustillant, plus croustillant parce que là, il va y avoir de l'enjeu. Grand 3, la relation entre le bien commun et le bien particulier. Le bien commun tel qu'on vient de le définir, le bien de la communauté, le bien de chacun et autres, et puis le bien particulier de chacun d'entre nous. Parce que l'une des difficultés avec le bien commun, c'est qu'on a facilement tendance à l'opposer justement à notre bien à nous. Je suis dans une communauté et je regarde mon petit bien à moi et le bien commun, c'est ce qui va contredire mon bien à moi. Typiquement, on a fait un bon repas. Mon bien commun, après le bon repas, c'est d'aller discuter, de me faire ma petite cigarette, d'aller me prendre mon café, ceci, cela. Le bien commun, c'est d'aller faire la vaisselle. Et donc, d'aller faire la vaisselle, bien commun, c'est ce qui vient heurter mon bien particulier, glandouiller. Et spontanément, c'est comme ça qu'on se positionne. Hein. C'est normal, on est marqué par le péché originel. Et c'est là où il faut se rappeler ce que je vous disais tout à l'heure. En réalité, il ne peut pas y avoir d'opposition entre le bien particulier et le bien commun. Les deux sont articulés. Pourquoi ? Saint Thomas, toujours lui, la grande référence, hein, pourquoi chercher ailleurs ? Saint Thomas, toujours lui, donne trois raisons. Premièrement, parce qu'il dit le bien propre de chacun ne peut pas exister sans le bien commun. La main ne peut pas être en bonne santé si le corps est malade. Alors, si elle est en bonne santé, ça ne va pas durer très longtemps. Si tout le reste est en train de dépérir, tôt ou tard, la main va dépérir elle aussi. Deuxièmement, parce que la partie appartient donc à un tout, et que son bien n'est vraiment bien que s'il est rapporté au tout. Prenons un exemple. Imaginons, c'est que l'imagination pour le coup, que j'ai la plus belle voix du monde. Enfin, vous n'êtes pas obligé de rigoler non plus, ça peut être vrai aussi. Hein. Imaginons que j'ai la plus belle voix du monde, le meilleur chanteur. Mon chant ne sera beau que s'il est ajusté au chant des autres chanteurs avec moi. Si je fais la plus belle des vocalises, mais qui n'est absolument pas ajustée à ce que chantent les autres, ça va être très moche. Pour que mon chant soit vraiment beau, il faut que ce soit ajusté aux autres. Et vaut presque mieux de ce point de vue-là, c'est pas presque, il vaut mieux de ce point de vue-là que je fasse peut-être une vocalise moins étincelante, mais plus ajusté aux autres. Et ce sera davantage mon bien. Troisième raison pour laquelle il ne peut pas y avoir d'opposition, c'est que comme la partie est la partie d'un tout, le bien du tout, c'est son bien à elle aussi. frère Timothée et moi, nous sommes religieux. Nous appartenons à l'ordre des prêcheurs, à des couvents différents, mais peu importe. Admettons, à un moment, nous avons été dans le même couvent, le couvent de Marseille. Aucun de nous deux ne pouvait dire « le couvent m'appartient ». Il appartient à la communauté. Et en même temps, chacun d'entre nous peut dire « c'est mon couvent ». Ce couvent ne m'appartient pas et il m'appartient. Le bien du tout, c'est aussi mon bien. Et il faut se réjouir, même si parfois je ne profite pas moi directement de ce bien, il faut se réjouir de ce que d'autres qui me sont liés puissent en jouir. En fait, et je l'évoquais tout à l'heure, pourquoi est-ce que nous opposons le bien commun et le bien particulier? C'est parce que nous sommes marqués par le péché originel. Et que ce péché originel a introduit dans notre cœur l'égoïsme. Il fait que nous, nous cherchons à ramener à nous. Cette logique du bien commun ou de l'égoïsme, c'est la ruine, enfin quand c'est l'égoïsme justement, c'est la ruine du couple. Est-ce que je conçois mon couple, par exemple, sur le modèle du bien commun où nous cherchons ensemble un bien qui nous est commun? Ou est-ce que le couple, c'est on est chacun à défendre son bifteck, à faire des logiques de concession, j'ai cédé là-dessus, tu cèdes là-dessus, et donnant-donnant. Exactement ça, hein, la question bien particulier ou bien commun. Si on envisage la vie conjugale sous l'angle du bien commun, ça change absolument tout au conflit dans un couple. Et ce qui est par derrière, donc, c'est notre égoïsme. Mais en fait, quand on privilégie le bien particulier sur le bien commun, c'est par égoïsme, mais même là, on est des médiocres. On n'est pas de vrais égoïstes. Même là, on arrive à faire médiocrement, c'est quand même nul. Parce que, mais si on était vraiment égoïste, on privilégierait quand même le bien commun. Parce que justement, le bien commun, c'est mon bien. En fait, même par égoïsme, il faudrait privilégier le bien commun. Donc en plus de ça, on est des égoïstes idiots. C'est quand même dommage. Attention, évidemment, il ne s'agit pas d'aimer le bien commun simplement pour ce qu'il m'apporte. Mais il s'agit d'aimer le bien commun pour la bonté qu'il a en lui-même, pour le bien qu'il représente pour la communauté. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, je peux me sacrifier dans mon couple pour le bien du couple et de la famille, parce que je suis heureux de ce que ma femme, mes enfants sont heureux. Même si moi, je bénéficie. J'ai renoncé, par exemple, à aller voir le match de foot pour aller suivre ma femme faire les soldes ce samedi après-midi. C'est un projet comme un autre. Et de la voir heureuse, d'avoir partagé ce temps avec moi, me rend heureux. Bon, surtout que j'ai l'oreillette qui me permet d'avoir comme les résultats du match de rugby en fur et à mesure. Bon, ça, c'est autre chose. Il y a par derrière, est-ce que j'aime ce bien commun pour le rapporter à moi, ou est-ce que j'aime ce bien commun parce que je veux me porter vers lui, la distinction entre deux manières d'aimer, un amour où j'aime pour consommer et un amour où j'aime pour me donner. Et justement, si je refais le lien avec l'amour conjugal, l'amour conjugal, c'est un amour où j'aime pour me donner, pas pour consommer. L'autre n'est pas une tablette de chocolat. Si bien que si nous privilégions parfois le bien commun, le bien particulier sur notre bien propre, par rapport au bien commun, pardon, c'est non seulement par égoïsme, mais aussi, je le disais, on est un peu idiot là-dedans, parce qu'on se trompe. On se trompe, c'est-à-dire qu'on prend pour un bien, mon bien particulier, ce qui n'est pas vraiment un bien. Ça n'est qu'un bien apparent. Et c'est là où il faut qu'il y ait un petit discernement. Privilégier le bien commun, c'est toujours privilégier mon bien. Oui, mais pour ceux qui ont écouté depuis le début et qui ne sont pas encore trop fatigués, vous pourriez réagir en disant « oui, mais vous avez évoqué le militaire qui se sacrifie pour son pays. En quoi est-ce que c'est un bien pour lui ?» Parce que, enfin, je veux dire, 6 pieds sous terre, ça, il peut avoir une jolie épitaphe sur son cercueil. « Ici gît celui qui s'est sacrifié pour le bien commun. » Génial. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il se sacrifie? Pourquoi est-ce que c'est quand même son bien? Alors que là, il renonce à un bien qui n'est pas que apparent. Il renonce à sa vie quand même. Hein. C'est pas apparent comme bien, c'est un vrai bien. Pourquoi est-ce que c'est quand même son bien? Parce que ce faisant, il pose un acte vertueux qui le rend meilleur. Tout acte vertueux me rend meilleur. Et en plus de ça, cet acte vertueux, s'il est vraiment vertueux, il a sa valeur pour la vie éternelle. Alors peut-être qu'effectivement, ici-bas sur terre, j'en profiterai pas, mais tout ça, ce sera couronné dans la vie éternelle. Même si me sacrifier pour le bien commun me coûte, cela me demandera toujours un acte vertueux qui, de toute façon, me rendra bon et qui aura sa valeur en vie éternelle. Et ça, c'est le bien commun par excellence que la vie éternelle, justement, parce que la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à saint Augustin que le bien commun est le critère qui nous permet d'évaluer notre progrès dans la vie spirituelle. Nous pouvons évaluer si nous progressons dans la vie spirituelle dans la mesure où nous privilégions toujours le bien commun sur notre bien propre. Je vous laisse y réfléchir ce soir avant de vous endormir. C'est clair ? Ça va ? Quatrième point, la différence entre le bien commun et l'intérêt général. Pour mieux saisir ce qu'est le bien commun, je vais essayer de montrer ce qu'il n'est pas. Et notamment, ce fameux intérêt général avec lequel on le confond et qui est très à la mode, ou en tout cas, qui est le mot récurrent dans le discours politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle quasiment jamais de bien commun, mais on parle éventuellement d'intérêt général. Et on les prend l'un pour l'autre. Ça n'a rien à voir. Le bien commun, c'est cette idée que, ensemble, nous allons pouvoir atteindre un bien que, séparément, nul d'entre nous ne peut atteindre. De sorte que les autres sont ceux grâce à qui je vais obtenir ce bien. Les autres sont des amis. Et de fait, c'est la définition de l'amitié. L'amitié, ce sont deux personnes qui se veulent un bien qui leur est commun. C'est vraiment ça l'amitié. C'est pas partager des chouilles et finir murgé. Ça, c'est du copinage potache. Ça n'a aucune valeur. La vraie amitié, on veut notre bien. L'intérêt général n'est plus dans cette dynamique où nous voulons ensemble un bien qui nous est commun et que séparément nous ne pourrions pas atteindre. L'intérêt général, c'est tout l'inverse. C'est la poursuite égoïste de mon intérêt personnel jusqu'au moment où je vais rencontrer l'intérêt de l'autre qui va mettre une limite à mon expansion. C'est ce qui a donné lieu à cette définition complètement idiote de la liberté. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. D'accord. Tant que je peux avancer, j'avance. Et on imagine que c'est très simple, vous prenez un gâteau, chacun une cuillère, bah c'est la guerre. Quoi. Que le meilleur gagne, celui qui en a bouffé le plus, bah très bien pour lui, et l'autre, pas de bol, et c'est ça l'intérêt général. Eh ouais, toi c'est sûr, avec ton dentier, t'as pu faire que deux cuillères, moi j'ai pu en faire 18, bah c'est l'intérêt général, mon gars. Ah, on comprend bien que ça va pas. Alors, comment invalider cette théorie qui est que la poursuite égoïste de notre intérêt, par chacun de son intérêt, arrive à l'intérêt général pour tout le monde? C'est que pour invalider une loi générale, il suffit, pour une loi universelle, il suffit d'un contre-exemple. En l'occurrence, ce qu'on appelle le paradoxe du tabouret. Imaginez Saint-Pierre de Rome. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais il y a un gros truc, voilà, c'est grand, il y a du monde. Saint-Pierre de Rome, le jour du 2 février. Le 2 février, c'est la fête de la vie religieuse. Donc le 2 février, vous noyez le frère Timothée de SMS pour dire bonne fête parce que c'est sa fête, il est religieux. À partir de minuit, vous pouvez toutes les 5 minutes. Alors, jour de la fête religieuse. Saint-Pierre de Rome, la messe est présidée par le pape, la basilique est remplie.
Je donnerai le numéro du frère
Romain. La basilique est remplie, 90% de religieuses, 10% de religieux qui ont réussi à trouver une place, on ne sait pas trop comment. Au début de la célébration, avant que le pape n'arrive, c'est du vécu hein, ce que je vous décris là, avant que le pape n'arrive, tout le monde pieusement dit le chapelet, le bréviaire, c'est sage, c'est calme, c'est... On entend le froufrou d'une soutane blanche. Là, c'est l'excitation. Le premier rang se met debout et pour mieux voir, monte debout sur sa chaise. Résultat, le deuxième rang, qui sinon a une vue imprenable sur le popotin de celle de devant, se met aussi debout sur sa chaise. En 45 secondes, tout Saint-Pierre de Rome est debout sur sa chaise. Personne ne voit mieux qu'au début et tout le monde est installé plus inconfortablement. La poursuite égoïste de l'intérêt a conduit à une situation complètement absurde. D'où vient la différence entre bien commun et intérêt général ? Deuxième grande définition philosophique, c'est que l'intérêt général, c'est un intérêt qui est général. Il y en a qui ont suivi. L'intérêt, ce n'est pas le bien. Quelque chose peut être mon intérêt sans être mon bien. C'est mon intérêt de mentir à ce moment-là pour dissimuler à mes parents que j'ai eu une mauvaise note. Sinon, je vais être puni, j'aurai plus le droit au Nutella. C'est mon intérêt de mentir. C'est pas mon bien. Parce que ce faisant, je pose un acte mauvais qui me rend mauvais. Quelque chose peut être mon bien sans être mon intérêt. C'est mon bien de dire la vérité. Mais ce ne sera pas mon intérêt parce que je vais me faire punir. Dans l'idée de bien, il y a justement une connotation morale qu'il n'y a pas dans l'intérêt. Et le général, c'est pas le bien, c'est pas le général, c'est pas le commun. Le général répond à une loi mathématiquement assez juste, 2 plus 2 égale 4. Là, je pense qu'on se retrouve sur un terrain qui nous convient tous. 2 plus 2 égale 4, c'est-à-dire que le tout, c'est égal à la somme des parties. Alors que, dans la logique du bien commun, le commun, 2 plus 2 égale 5. C'est-à-dire qu'il y a plus dans le tout que dans la somme des parties. Le tout, parce qu'il forme un tout, a une valeur en tant que telle qui rajoute à la simple partie. Je ne sais pas si vous êtes collectionneur. Les collectionneurs le savent, une collection complète a beaucoup plus de valeur que chaque élément de la collection pris séparément. Vous êtes propriétaire d'une collection des Pif Gadgets, le numéro vaut 2 euros, j'en sais rien, mettons, 2 euros. Vous perdez un numéro de la collection complète, vous avez perdu plus que 2 euros. Parce que la collection qui valait 1000 n'en vaut plus que 500. Il y a plus dans le tout que dans la somme des parties. Que retenir ? Que le bien est le but que nous poursuivons en société. Quand j'appartiens à une société, quel est le but que je poursuis avec les autres ? Est-ce que nous poursuivons le même but ? Est-ce que nous poursuivons un but qui nous est commun ? Ou est-ce qu'on s'associe par simple intérêt, chacun ramenant ses billes à lui ? Pensez-y, parce que comme l'une des premières sociétés qui va vous concerner, en fait, autre la politique et la société, mais ça, à la rigueur, on ne s'engage pas de la même façon, le couple, quand même, encore une fois. Est-ce que je vois l'autre, deuxième question, est-ce que je vois l'autre comme l'ami grâce à qui je vais atteindre ce bien commun, ou est-ce que je vois l'autre comme le concurrent qui met un frein à mon expansion ? Logique de la concession ou logique du don ? Et puis, est-ce que je suis bien convaincu que travailler au bien commun conduira toujours à mon propre bien. Si vous voulez retenir trois idées de tout ce qui a été dit, ça aurait pu être résumé en 30 secondes, on est d'accord, mais sinon vous seriez ennuyé. Retenez au moins ces trois idées. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Si oui, le frère Timothée pourra y répondre. Non, j'essaierai d'y répondre.
Oui, j'avais juste une question. Quand on parle de bien commun, par bien, on entend une possession ou une chose qui est vendue en bonne, ou c'est un...
C'est universel derrière bien. Ça peut être une possession. Par exemple, une société qui se constitue pour être propriétaire d'un immeuble, ben le bien de cette société, ça va être la gestion de cet immeuble et le fait que chacun va pouvoir y habiter. Mais ça peut être quelque chose, ça peut être très différent, justement, dans un couple. Le bien commun qu'on poursuit, ce n'est pas simplement normalement acheter une voiture et une maison. C'est avant tout s'aimer et fonder une famille. Premier bien commun et le deuxième bien commun dans le sens, dans le couple, puisque je vous dis qu'il y a différents niveaux, ben, ultimement, Dieu. Est-ce que je veux être saint avec toi ? Vous voyez, c'est selon... Il y a plusieurs aspects dans le bien commun, justement. Ce n'est pas qu'une chose. Donc, selon le type de société, il va y avoir plusieurs types de biens communs. Ça répond à votre question ? À peu près ?
Vous avez dit que les actes vertueux amenaient à une valeur pour nous,
oui. Éternelle.
Enfin,
Il y a deux choses. C'est, d'une part, ils ont une valeur pour nous parce que tout acte de vertu me rend bon, il m'améliore. À force de poser des actes d'une vertu, ben, j'acquiers cette vertu et donc je deviens meilleur. Et puis en plus de ça, en tant que vertueux, donc ça veut dire que c'est des actes qui ont été portés d'une manière ou d'une autre par l'amour. Et cet amour-là a sa valeur dans la vie éternelle. C'est pas possible. Ça vous embête de travailler, par exemple ? Non. Ah bah oui. Mais même si je râle, il y a deux choses. Il y a le fait que effectivement, ce truc peut m'enquiquiner, peut m'embêter et autres. Mais il y a le fait que dans le fond, je veux quand même poser cet acte bon parce qu'il est bon, indépendamment du ressenti affectivo-psychologique ou psycho-affectif. Il y avait une autre question, oui.
J'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'il faut viser le bien commun, mais le bien commun, il y a différentes définitions selon les personnes. Alors, est-ce que en visant le bien commun, on ne risque pas d'imposer notre vision?
Alors, ça, c'est une très bonne question que j'aurais aimé pouvoir développer dans une conclusion, mais pas eu le temps, qui est que, en fait, dans une communauté quelle qu'elle soit, normalement, il y a une autorité d'une personne ou plusieurs personnes, qui est justement dont la mission justement est de discerner quel est le bien commun. Parce que si on prend dans la communauté, dans le couvent, la question du repas, le frère économe va demander à ce que le repas coûte le moins cher possible. Le frère cuisinier, le frère infirmier va demander à ce que le repas soit fait surtout à base de légumes diététiques. Et le frère cuisinier, lui, va demander à ce qu'il y ait surtout de la crème et du beurre. Bon, et chacun, selon sa vision, va avoir raison en disant mais le bien commun, c'est ça. Bon, et ben c'est le supérieur de la communauté qui est là pour arbitrer entre tous en disant, ben voilà, en fait, le bien commun de la communauté, c'est ça. Et justement, parce que comme il est au-dessus comme autorité, il arrive à intégrer toutes les composantes pour pouvoir discerner quel est le bien commun. C'est le rôle de l'autorité dans une société que de discerner le bien commun. Alors, c'est là où il faut faire confiance à l'autorité. C'est plus ou moins facile. Et sinon, ben, entre nous, quand on est plusieurs, ben, on discute et on cherche ensemble. Donc il ne s'agit pas d'imposer ma vision, mais d'écouter ce que les autres ont à dire. Parce que dans un couple, sauf si on tient à ce qui peut tout à fait se définir, que c'est l'homme l'autorité, bon, mais ça, je pense que ça risque d'être un peu long à discuter, n'en rentrons pas là-dedans. Non, plus sérieusement, ben, dans un couple, justement, il ne peut pas y avoir cette décision, il y en a un qui décide et l'autre qui s'écrase. Bon, ben, on cherche ensemble quel est le bien commun. Et si vraiment on est attentif l'un à l'autre, et si on n'est pas dans une logique de la concession ou de la négociation où chacun ramène la couverture à lui, et si on cherche vraiment le bien, pour le coup, on finit par le trouver. Ça peut prendre du temps, mais on finit par le trouver. Et ça suppose de développer justement toute la vie vertueuse. Ouais. Pas convaincu. Parce que, qu'est-ce qui n'est pas clair ou qu'est-ce qui...
Est-ce que c'est forcément viser le bien commun de faire confiance à notre vie? Pas forcément la politique, mais déléguer le discernement.
Vous avez raison, c'est-à-dire que sur le papier, oui, parce que c'est le rôle de l'autorité, elle est là pour ça. La raison, la mission première du bien de l'autorité, justement, c'est d'être au service du bien commun, donc de discerner quel est le bien et de veiller que chacun y participe et reçoit du bien commun ce qu'il doit recevoir. Sauf qu'on est bien conscient que dans les faits, l'autorité peut être objectivement déficiente. Mais sauf que elle peut me sembler, moi, objectivement déficiente parce que j'ai que ma vision de la situation, et que si j'avais tous les paramètres, peut-être que je changerais. D'où le fait que, par principe, je dois faire confiance, sauf si j'ai vraiment... Il y a des éléments très évidents, incontestables, tels que notamment lorsque l'autorité va me demander quelque chose qui va être contraire à la loi de Dieu, où là, j'ai l'évidence qu'il n'est plus au service du bien commun. Et sinon, c'est très compliqué. Parce que, avec ce que je connais, j'ai raison de penser ce que je pense, et de me dire que là, l'autorité se plante, sauf qu'il y a des paramètres que je n'ai pas, et qui fait qu'en réalité, c'est l'autorité qui a raison. Donc, c'est sûr que, au cas par cas, c'est très compliqué à discerner. Je ne peux que donner des réponses générales et de principe, et pas plus précises que ça, malheureusement.
Vous avez donné au début l'exemple de la délinquance avec la théorie de Rousseau. C'est quoi la théorie qui s'oppose à la
Eh bien, justement, ça va être tout l'enseignement chrétien, alors qui est hérité d'Aristote, qui est que l'homme est naturellement fait pour vivre en société, et qu'au contraire, c'est la société qui éduque et qui permet à chacun d'être éduqué et d'être vertueux. C'est ça le rôle de la société, normalement. Là aussi, je parle de la société en théorie, je suis bien d'accord que dans les faits, il peut y avoir des déficiences.
Mais du coup, d'un point de vue chrétien, par rapport à des délinquants, quelle culpabilité on peut leur...
Ah ben alors ça, c'est justement, ben ça va être tout le rôle de la justice que de discerner quelle est la responsabilité réelle du délinquant, et c'est pourquoi la loi peut être appliquée différemment par le juge. Donc il y a la société éduque, et si la personne, s'il y a un délinquant, ben il appartient à quelqu'un qui a été formé pour ça, de juger dans quelle mesure la personne doit être sanctionnée et du corriger ou quoi que ce soit.
Est-ce que du coup, d'un point de vue chrétien, est-ce qu'on voit quand même que le délinquant sait profondément
Ah ben, c'est possible, tout est possible pour le coup. Tous les cas de figure sont possibles. Il peut y avoir des délinquants qui savent très bien et puis d'autres qui effectivement, il y a une déficience dans la formation reçue. Tous les cas sont possibles. Mais on ne peut pas dire que par principe, c'est la société qui corrompt. Mmh. Voilà. Ça, en revanche, c'est très contestable. Très, très contestable. Et donc de dire qu'il ne faut pas sanctionner parce que c'est à cause de la société que le délinquant est délinquant. Ça peut être vrai pour Duchemolte Trucmuche, dans tel cas particulier, mais de là à l'universaliser et le théoriser, c'est plus curieux, pour le dire pudiquement.
Transposer la question de la vérité sur le bien commun, toutes ces questions-là, dans un monde qui, de fait, pas tout le monde, du coup, en Dieu, ou voilà, comment quelque part expliquer cette notion qui peut-être, alors vous aimeriez du coup pouvoir peut-être me la répondre, nécessite peut-être qu'on croit en Dieu.
Alors, je dirais, il y a deux choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Premièrement, et c'est pour ça que le magistère aujourd'hui, l'enseignement de l'Église, développe surtout ces notions-là, en s'appuyant surtout sur la définition du plus bas degré du bien commun. Parce que les conditions sociales, ça, tout le monde peut se mettre d'accord. Et c'est surtout pour ça qu'aujourd'hui, l'Église parle de ça plus que de Dieu comme bien commun. Parce que là, elle est plus audible pour beaucoup de nos contemporains. Ensuite, deuxièmement, tout simplement, le bon sens. Ça paraît évident que si on se réunit, c'est qu'on cherche quelque chose ensemble. Et qu'en fait, quand on pose les choses très simplement, le bon sens, on peut s'appuyer dessus. Quoi. Parce que la théorie de Rousseau, c'est absurde. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de rousseauiste parmi vous, mais c'est une absurdité. Hein. Ce sera le mot de la fin. Rousseau, c'est absurde. Mais Saint Thomas, c'est bien.
Merci beaucoup, Frère Marie.